Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, la Cour internationale de justice ordonne au Myanmar de protéger les Rohingyas, le comité d'urgence de l'OMS réunit au sujet du nouveau coronavirus, la chef des droits de l'homme de l'ONU commence sa visite en RDC, et en dossier retour sur l'utilisation des drones pour démasquer les activités de pêche illégale. La Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, a ordonné ce jeudi au Myanmar de prendre des mesures d'urgence pour protéger la minorité musulmane Rohingya et prévenir un éventuel génocide. Ces mesures conservatoires avaient été demandées en novembre dernier par la Gambie, dans l'attente d'une décision définitive de la Cour concernant la plainte déposée par ce pays. Jérôme Bernard nous en dit plus.
La Gambie, qui a déposé sa requête au nom de l'Organisation de la coopération islamique, accuse le Myanmar d'avoir violé la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide en commettant des actes de génocide à l'encontre des Rohingyas. Depuis août 2017, environ 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée et des milices au Myanmar. Face à la demande de mesures conservatoires par la Gambie, en attendant une décision définitive sur la violation ou non de la Convention sur le génocide par le Myanmar, les juges de la Cour internationale de justice ont estimé qu'il existait un risque réel et imminent qu'un préjudice irréparable soit causé aux Rohingyas avant qu'elle ne rende sa décision définitive. La CIJ a donc ordonné au Myanmar de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout crime pouvant être constitutif d'un génocide contre les Rohingyas qui se trouvent toujours sur son territoire. Les juges de la Cour ont également ordonné au gouvernement du Myanmar de veiller à ce que ni l'armée ni des groupes armés qui lui seraient affiliés ne participent ainsi directement et publiquement et ne se livrent à une tentative de génocide. Le Myanmar devra aussi préserver les preuves d'éventuels crimes pour de futurs procès. La CIJ a enfin ordonné au Myanmar de faire rapport dans les 4 mois puis tous les 6 mois afin de détailler les mesures prises pour protéger la population Rohingya.
Le comité d'urgence de l'OMS a repris ses discussions ce jeudi à Genève pour déterminer si le nouveau coronavirus constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Entre-temps, les autorités chinoises font désormais état de 571 cas de pneumonie confirmés dans 25 provinces du pays, dont 95 cas graves et 17 décès. Et des cas ont également été signalés dans d'autres pays. À l'issue de la première réunion du comité mercredi, le chef de l'OMS avait souligné qu'il avait besoin de plus d'informations avant de formuler des recommandations. On écoute le docteur Tedros.
La décision de déclarer ou non une urgence de santé publique de portée internationale est une décision que je prends extrêmement au sérieux et que je ne suis pas prêt à prendre qu'après avoir dûment examiné tous les éléments de preuve. Notre équipe est sur le terrain en Chine en train de travailler avec des experts et des fonctionnaires locaux pour enquêter sur l'épidémie. Bien sûr, c'est un nouveau coronavirus, une nouvelle découverte. Son identification et séquençage ont été faits rapidement, ce qui démontre les capacités chinoises, mais plus important encore, l'information a été partagée immédiatement, ce qui a permis à la Thaïlande, au Japon et à la Corée d'identifier le nouveau coronavirus rapidement. Nous suivons la situation et ils prennent des mesures très fortes avec un plein engagement. C'est très important étant donné la situation. Nous avons insisté auprès d'eux qu'en prenant des mesures fortes, ils arriveront non seulement à contrôler la propagation dans leur propre pays, mais ils minimiseront les possibilités de propagation à l'international et ils font les deux. And they're doing
both. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme est arrivée ce jeudi à Bunia, dans le nord-est de la RDC, où elle a rencontré les communautés Emma et Lendu, des communautés qui ont fait l'objet d'un rapport de son bureau et faisant état de potentiels crimes contre l'humanité. À son arrivée, Michel Bachelat a également échangé avec des représentants du gouvernement national et régional. On écoute le reportage d'Issac Rémo de Radio Okapi.
Le gouverneur intérimaire a remercié la haute commissaire pour son attention soutenue pour la province de l'Ituri qui traverse une crise depuis 2017, particulièrement en territoire de Djougou. Ibrahim Oudjer Tianboulé a relevé des violations des droits de l'homme par des miliciens du groupe armé Codeco. Il affirme que des efforts sont fournis par le gouvernement de la RDC pour mettre fin à ces violences à travers les forces de l'ordre. Il a ajouté que dans le cadre de la justice, plusieurs assaillants ont été arrêtés et condamnés par les tribunaux militaires. Cependant, il a déclaré que les défis restent énorme. Il a demandé à son hôte de soutenir les efforts du gouvernement central et provincial. C'est notamment à travers l'appui aux institutions judiciaires en RDC. De son côté, le ministre national des droits humains a rachéri en disant que la RDC est membre des Nations Unies et a besoin de l'accompagnement de la communauté internationale.
Des drones pour lutter contre la pêche illégale, c'est ce que propose le Marocain Badr Idrissi, le fondateur de la start-up Atlan Space. Au micro d'Anaïs Sautin de la FAO, Badr Idrissi explique les avantages des drones pour lutter contre la pêche illégale, tout en soulignant les défis toujours liés à l'utilisation de cette nouvelle technologie.
L'aventure Atlan Space a commencé en 2015, juste après la signature de l'accord de Paris sur le changement de climat et l'annonce du Maroc qui était organisateur de la COP22. Younes Moumen, qui est cofondateur et CTO, et moi-même, nous avons eu une petite discussion autour de quel est l'héritage qu'on est en train de laisser à nos enfants. Et on était choqués de savoir que plus de 20% des pêcheries dans le monde sont illégales. Et ça nous a choqués parce qu'on vient du Maroc, qui est un pays côtier, dont la pêche représente une tranche majeure de l'économie, mais aussi pour la société et les emplois. On a décidé d'agir. On vient tous les deux d'un environnement technologique. Younes s'est développé des algorithmes et du software. Moi, je sais en vendre, de par notre expérience. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé de l'intelligence artificielle qui permet aux avions sans pilote, les grands drones, ce qu'on appelle des voilures fixes, à être totalement autonomes, ne plus avoir besoin d'un pilote humain pour les piloter et pouvoir surveiller de très larges zones géographiques.
Alors des drones pour détecter les activités de pêche illégales, mais aussi la pollution de l'océan et les éventuels déversements d'huile. Concrètement, comment ça marche ?
Cette intelligence artificielle, elle fait principalement trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle autonomous navigation, c'est la navigation autonome. C'est-à-dire qu'on injecte les informations relatives à la météorologie, relatives aux courants marins, relative à l'historique des pêches dans une zone spécifique. Et automatiquement, l'intelligence artificielle calcule ce qu'on appelle des zones d'intérêt de pêche, c'est-à-dire les zones les plus propices où il pourrait y avoir des activités de pêche. Et donc, l'intelligence artificielle calcule automatiquement le chemin le plus optimisé pour parcourir le plus de zones possibles. Après, il y a le cognitive vision, c'est-à-dire que le drone commence à voler, commence à prendre des photos de l'horizon et comprend ce qu'il est en train de voir. Une fois qu'il va détecter une anomalie au niveau de l'horizon, un point au niveau de l'horizon qui n'est pas de l'eau, donc le drone va dévier automatiquement de son parcours pour aller identifier c'est quoi ce point-là.
Donc une fois que vous détectez cette anomalie, qu'est-ce qui se passe ?
Donc une fois qu'on détecte l'anomalie, on commence la procédure d'identification de l'anomalie. Le drone dévie de son parcours et commence à prendre des photos de l'objet lui-même. Est-ce que c'est juste un rocher ou c'est un bateau ? Si c'est un bateau, est-ce que c'est un pétrolier ou un bateau de pêche ? Si c'est un bateau de pêche, on commence la procédure pour l'identification de est-ce que c'est une procédure légale ou illégale. C'est-à-dire, on va détecter les signaux radio qui sont transmis par le bateau et voir est-ce que déjà il est en train de transmettre un signal. S'il est en train de transmettre le signal, on va identifier ce signal par rapport à l'identifiant qui est marqué sur le bateau, s'il est lisible, avec le drapeau même du bateau. Donc, on fait ce qu'on appelle un scoring pour arriver à un pourcentage défini avec les autorités du pays.
Quels sont les avantages à utiliser des drones pour surveiller les activités de pêche illégale et notamment au niveau durabilité ?
Il faut savoir que le coût d'utilisation de drones pour la surveillance est beaucoup moins cher que l'utilisation d'avions légers ou l'utilisation d'autres moyens de surveillance, les satellites ou les vaisseaux de garde-côte. Par exemple, sur la partie avion léger, on est sur des ratios de 1 sur 9. On est 9 fois moins cher que la surveillance par avion léger.
En quoi les partenariats sont cruciaux pour la réussite de cette technologie ?
Il faut savoir qu'on est une start-up qui vient d'Afrique. On est plus, entre parenthèses, des geeks qui développent de l'informatique. Et donc, on se base sur des partenariats pour mieux comprendre le contexte local de chaque pays, de chaque région, par rapport à la pêche illégale. Et par exemple, qui ont des dizaines d'années d'expérience.
Est-ce que le recours aux drones pour lutter contre les activités de pêche illégale est quelque chose de généralisé ?
Le recours aux drones pour combattre la pêche illégale n'est pas généralisé pour une simple raison. C'est qu'aujourd'hui, les drones, ce qu'on appelle nous traditionnels, ont beaucoup de limitations. La première limitation, c'est l'aspect humain. Il faut un pilote pour pouvoir piloter ces drones, chose qui n'est pas facile à trouver en pays en voie de développement. Le deuxième point, c'est la limitation des moyens de communication. Il faut savoir qu'un drone, ce qu'on appelle traditionnel, a un rayon d'action de maximum de 90 km. Il ne va pas couvrir toute la zone économique exclusive qui est sous autorité d'un pays, qui est à 350 km. Et en plus, ces moyens de communication pour arriver à 90 km coûtent très cher. C'est des drones qui coûtent aux alentours de 1 million de dollars.
Fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.